Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Blaise Ndali Kabala.
Révision constitutionnelle, appel urgent de la voix des sans voix. Félix Tshisekedi invité à décrisper la situation. Retour à Goma sous contrainte sanitaire, des Congolais franchissent la frontière tanzano-rwandaise après un long blocage. Ebola, suivi obligatoire et recherche clinique. Roger Kamba impose 21 jours de contrôle pour les voyageurs, tandis que l'OMS lance un essai sur deux traitements. Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut national de santé publique en RDC, a donné son avis sur ces sujets débattus lors de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier jeudi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal du matin sur la radio de la paix. Alors que les débats sur une éventuelle révision ou un changement de la constitution continuent de diviser la classe politique congolaise, la voix des sans-voix tire la sonnette d'alarme. L'Organisation de défense des droits humains redoute une aggravation des tensions politiques et met en garde contre des possibles violations si le climat actuel n'est pas rapidement apaisé. Dans une déclaration publié ce mercredi à Kinshasa, la VSV appelle le président Félix Tshisekedi à intervenir personnellement pour décrisper la situation et préserver l'unité nationale dans un contexte déjà marqué par l'insécurité dans l'est du pays. On écoute Irène Monama Motakwa, première directrice exécutive adjointe de la VSV, dans ses propos recueillis par Grace Amzati Masanzi.
Pour la VSV, il est plus que temps que les autorités lancent des messages d'apaisement et interpellent leurs partisans à mettre fin aux discours et déclarations qui divisent les Congolais et de multiplier plutôt des messages qui favorisent l'unité nationale. Le pouvoir de Kinshasa devrait éviter de se faire induire en erreur par de nombreux flatteurs qui agissent pour attendre ou pérenniser des dividendes politiques ou financiers dont des nominations aux postes de responsabilité ou les maintien à leur poste juté actuel. En définitive, c'est ton excellence, monsieur le président de la République, fait contribuer à la décrispation du climat politique prétendu pour apaiser la tension politique. Il est crucial que les Congolais restent unis et cela doit passer par la retenue à observer par tous les opérateurs politiques, toutes tendances confondues, pour que la RD Congo ne bascule pas dans le chaos. En effet, aucune appartenance tribalo-ethnique ne vaut plus que l'unité et la cohésion nationale, surtout en ce moment précis des contextes d'agression et d'occupation de certaines parties de la RD Congo avec le soutien du Rwanda.
Le gouvernement congolais et les agences des Nations Unies ont officiellement lancé ce jeudi 25 juin un projet destiné à prévenir et réduire les conflits fonciers à l'origine de nombreuses tensions dans la région de Kwamouth, au Maïndombé. Ce programme d'une durée de 36 mois vise à renforcer les mécanismes participatifs de gestion des différents fonciers et à promouvoir la cohésion sociale dans les provinces touchées. Financé à hauteur de 4 millions de dollars américains par les fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, ce projet entend aussi répondre aux défis des gouvernances foncières, à la précarité socio-économique des populations et à la détérioration des relations entre communautés dans un contexte marqué par des milliers de morts et plus de 161 000 personnes déplacées. Les détails avec Ella Chembalo.
Pendant 3 ans, ce programme réunira communautés locales, autorités provinciales, services étatiques et chefs coutumiers autour d'une approche participative des préventions et des gestions des conflits fonciers. Pour Claude Ngomsi, chef des bureaux d'ONU Habitat pour l'Afrique centrale, la réussite de cette initiative repose essentiellement sur son caractère inclusif.
Ce programme qui est mis en œuvre par ONU Habitat, la FAO, le BCDMNH, donc le Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme et l'OIM, vise à une démarche intégrée, inclusive et qui implique divers corps ministériels, mais également les provinces.
Parmi les participants, l'administrateur ad intérim du territoire de Kwamouth, Lievenli Fumozo, a salué l'importance accordée au dialogue et à la réconciliation.
J'ai beaucoup été trop intéressant qu'ils ont parlé pour le dialogue et la réconciliation.
Un point de vue partagé par les autorités coutumières. Sa Majesté Fumu Difima estime que ces consultations constituent une opportunité importante pour apaiser les tensions liées à la terre.
Le domaine foncier, c'est un domaine qui donne des maux de tête. La
l'environnement aujourd'hui, c'est encore pire. Quand on veut nous amener dans des consultations qui doivent amener à la résolution des crises, ça ne peut qu'être les bienvenus.
Pour les partenaires du projet, une paix durable passe inévitablement par une meilleure gestion des terres et des ressources naturelles, ainsi que par un dialogue renforcé.
Et puis, le gouvernement provincial de Kinshasa et l'UNICEF unissent leurs efforts pour améliorer la vie des enfants dans la capitale. Lors d'une table ronde stratégique organisée ce jeudi, les deux parties ont décidé de mettre en œuvre plusieurs actions concrètes afin de transformer les quotidiens des enfants. Cette politique, inscrite dans le plan provincial de développement 2026-2030, touche les secteurs de l'éducation, de la santé, de la sécurité, de l'environnement et de la planification. Les détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Pour l'horizon 2026-2030, le gouvernement provincial de Kinshasa affirme avoir lancé plusieurs actions en faveur des enfants de la ville. Sur le plan sécuritaire par exemple, l'exécutif provincial a déjà digitalisé les recensements administratifs dans les 12 des 24 communes de la capitale. Il organise les séances de renforcement des capacités des agents de l'état civil pour l'enregistrement des naissances, la production des registres des naissances ainsi que les rattrapages des enfants par jugement supplétif. Dans les domaines de la santé, les Le gouvernement de Kinshasa redynamise les brigades d'hygiène chargées de mener des prospections parcellaires à travers la ville afin de prévenir plusieurs maladies. Les autorités urbaines mettent également en place des mutuelles de santé pour faciliter l'accès à des soins de qualité. De son côté, l'UNICEF réaffirme son engagement à accompagner le gouvernement provincial de Kinshasa dans l'amélioration de l'accès aux services de santé, la garantie d'une éducation inclusive, le renforcement de l'accès à l'eau et à un environnement sain, ainsi que la protection de chaque enfant contre toute forme de violence et de vulnérabilité.
Au Nord Kivu, je le disais tout à l'heure, après plusieurs jours de blocage à Rusumo, à la frontière entre la Tanzanie et le Rwanda, quelques dizaines de ressortissants congolais ont progressivement regagné la ville de Goma depuis le début de cette semaine. Selon le témoignage de l'un d'eux, le parcours a été particulièrement difficile en raison des restrictions migratoires imposées par les autorités rwandaises dans le cadre des mesures sanitaires visant à prévenir la propagation de la maladie à virus Ebola, toujours en vigueur. Bernadette Nyangi pour les détails.
Très peu de voyageurs ont pu transiter par le Rwanda, l'accès y demeurant strictement réglementé. La majorité a dû recourir à des itinéraires alternatifs, notamment via le Burundi ou via Bukavu Goma ou l'Ouganda qui sort au Bunagana Goma au prix de contraintes logistiques importantes et de coûts élevés, comme en témoigne l'un d'entre eux.
Il y a ceux qui avaient pris la décision d'aller passer au Burundi, surtout ceux-là qui avaient des passeports, parce que là, on refusait que les tenants aient des passeports octroyés par les autorités des faits ici à Goma. Mais ils ont eu beaucoup de tracasseries au niveau de la plaine. Ils ont dépensé plus de $200 avec beaucoup de barrières. Alors nous autres qui avons des documents octroyés par les autorités de Goma, certains ont pris l'initiative d'aller passer par Mutukula, Mbarara, Kisoro pour passer par Bunagana. Donc beaucoup de dépenses en cours de route.
Il convient de rappeler que depuis le 22 mai, le refus de transit par le Rwanda lié aux mesures sanitaires contre Ebola a contraint des centaines de Congolais, majoritairement des commerçants revenant de Tanzanie, à rester bloqués en Rusumo pendant près de 3 semaines.
Chaque 25 juin, l'humanité célèbre la journée mondiale du vitiligo, une occasion de réfléchir aux réalités vécues par les personnes atteintes de cette maladie de la peau. À Kinshasa, confrontée aux contraintes culturelles et à la stigmatisation, elles peinent à mener une vie paisible et sans discrimination. À travers leurs témoignages, chacune rappelle que les taches blanches sur la peau ne sont pas seulement visibles, elles racontent aussi les combats quotidiens face aux préjugés. Beaucoup espèrent voir se multiplier les initiatives de sensibilisation dans différents milieux afin de briser les stéréotypes et promouvoir l'inclusion. Reportage signé Sephora Mpakachipuna.
Pour de nombreuses personnes, le vitiligo n'est pas seulement une condition dermatologique, c'est aussi un défi social et psychologique. Ces expériences fragilisent l'estime de soi et nourrissent un sentiment d'isolement. Une victime raconte son vécu et appelle à la société à adopter un regard solidaire et non discriminatif.
Depuis que j'avais 7 ans, je ne me rendais même pas compte. Les gens me voyaient maintenant autrement. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est vraiment une bataille.
Malgré que certaines personnes à Kinshasa ignorent l'existence de cette maladie, d'autres la reconnaissent. Un jeune Kinois partage sa perception.
J'ai de la compassion envers cette personne. Surtout dans la communauté congolaise, certains pensent que c'est un mauvais sort, c'est une maladie spirituelle.
Les spécialistes de santé Josué Tshiabola explique les origines du vitiligo et souligne qu'en aucun cas cette maladie n'est contagieuse ni infectieuse.
Le vitiligo est une maladie auto-immune de la peau qui est caractérisée par l'apparition des taches blanches dues à la destruction progressive des mélanocytes. Il faut aussi souligner que le vitiligo n'est pas une maladie contagieuse. Les personnes ayant des antécédents familiaux de vitiligo ou d'une maladie auto-immune sont susceptibles de développer le vitiligo.
Notons que vivre avec le vitiligo n'est pas une fatalité. Cette journée est une occasion de mettre en avant des histoires de résilience et de fierté identitaire.
D'après les sources médicales, le vitiligo, bien qu'il ne soit pas contagieux, a un impact psychologique et social important sur ceux qui en souffrent, souvent victimes de stigmatisation. Jean Gando a rencontré un jeune homme d'une trentaine d'années qui vit avec cette maladie depuis plus de 15 ans. Écoutez son témoignage.
Je suis avec le vitiligo depuis 2010 et depuis 2010, je n'ai jamais l'occasion d'avoir le traitement. Mais c'est depuis deux mois qu'on a commencé à me traiter. En tout cas, je témoigne que je vois une évolution, il y a un changement, il y a des taches noires. Déjà, ça a commencé à apparaître dans moins d'un mois. J'aimerais peut-être rassurer toute la population congolaise que la solution est là pour tous ceux-là qui souffrent de cette maladie de vitiligo. Moi-même, je suis un témoignage vivant de vitiligo. J'ai commencé à surmonter ça parce que j'avais cet espoir qu'un jour j'aurai la solution à cette maladie. Les gens, beaucoup disaient que non, c'est une maladie inguérissable, mais aujourd'hui, je peux rassurer tout le monde qu'elle est guérissable.
Amener la jeunesse congolaise à proposer des solutions innovantes aux défis du secteur minier, telle est la mission que s'est assignée le ministre national des Mines, Louis Wantoum, à travers le concours d'excellence Boania, destiné aux élèves de l'École nationale d'administration. Pour cette première édition, près de 48 candidats passionnés par les questions minières ont soumis leurs meilleures idées afin de renforcer la gouvernance du secteur. Le processus s'est achevé mercredi à Kinshasa par une cérémonie de remise des prix aux lauréats qui se sont distingués par la qualité de leurs réflexions. Les détails avec Ronéline Thibonera.
Ces candidats ont eu plusieurs semaines pour mener des recherches et élaborer des réflexions stratégiques soumises ensuite à un jury professionnel chargé d'en évaluer la pertinence face aux défis actuels du secteur minier. Au cours de cette période, diverses thématiques ont été abordées, la bonne gouvernance, la transparence et la traçabilité des ressources, mais aussi la lutte contre la fraude, l'encadrement de l'exploitation artisanale et le développement des nouveaux projets miniers. Pour le ministre des Mines, l'instauration de ces prix vise à doter les institutions du pays des cadres modèles capables d'apporter des solutions innovantes à ces secteurs stratégiques. Louis Wantoum Kabamba.
La richesse de notre sous-sol ne trouve sa pleine légitimité que lorsqu'elle contribue durablement à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. La gouvernance minière de demain devra reposer sur des valeurs cardinales. L'excellence, l'innovation, la transparence, la méritocratie et l'obligation des résultats. Je veux que vous compreniez qu'au-delà de ce concours, c'est un état d'esprit qui doit vous habiter tous, chers énarques. Vous ne devez conjuguer qu'un seul verbe, c'est le travail.
À noter que le concours Boigna vise à promouvoir l'excellence et l'innovation au service des réformes du secteur minier.
La République démocratique du Congo est désormais autorisée à soumettre officiellement un film dans la catégorie du meilleur film international aux Oscars. L'annonce a été faite ce jeudi 25 juin 2026 par Cecilia Zopeletto, responsable des relations publiques et internationales de l'Association des professionnels du 7e art, productrice, réalisatrice et professeure de cinéma à l'Académie des Beaux-Arts lors du lancement de la Commission nationale de sélection cinématographique. Cecilia Zopeletto Mpinga est au micro de Jean-Marc Matwaki.
La grande nouvelle, c'est l'établissement de la DRC Film Commission, qui est une commission approuvée par l'organisme qui organise les Oscars chaque année. Ils ont approuvé notre première commission, donc ça veut dire que désormais, on pourra envoyer chaque année un film en représentant la République démocratique du Congo à l'international dans la compétition peut-être la plus connue au monde pour le cinéma. Donc les cinéastes congolais maintenant qui ont des films, feature films, donc des longs métrages, sont invités à envoyer leurs films. Je vous répète le mail drcfilmcommission@gmail.com pour que ça peut être soumis à notre commission. Il y a des règles très strictes sur l'éligibilité des films. Le film sera choisi dès le maximum du 30 septembre 2026. Donc vous voyez que c'est là. On vous demande pas de faire des films, on vous demande d'envoyer les films qui sont déjà sortis entre octobre 2025 et septembre 2026.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient, une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU a accusé ce 23 juin Israël de cibler les enfants palestiniens à Gaza. Les experts onusiens confirment sur la base des motifs raisonnables qu'Israël commet un génocide à Gaza.
L'invité.
Toute personne en provenance des zones affectées par la maladie à virus Ebola devra désormais observer une période de suivi de 21 jours avant tout déplacement, que ce soit sur le territoire national ou à l'international. Cette mesure a été annoncée mercredi 24 juin par le ministre de la Santé publique Roger Kamba à la télévision nationale congolaise dans le cadre du renforcement de la riposte contre l'épidémie d'Ebola. L'émission Dialogue entre Congolais d'hier a abordé cette thématique. Le docteur Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut national de santé publique, y a donné son avis. On l'écoute au micro de Donamadi Mbambaya.
Docteur Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut national de santé publique de la République démocratique du Congo, pour le grand public, la gestion de la 17e épidémie à virus Ebola RDC, il y a des progrès mais aussi des faiblesses. Mais pour vous, plus d'un mois après et en toute honnêteté, quel est le bilan à ce jour de la situation et selon vous, est-ce que c'est progrès ou plutôt une riposte en échec?
Si on peut faire le bilan à ce jour, plus de un mois et 10 jours depuis la déclaration de cette épidémie, parce qu'il faut se souvenir que cette épidémie a été déclarée par Son Excellence Monsieur le Ministre le 15 mai 2026. Donc à ce jour, en termes de, si on peut parler de bilan ou de la situation épidémiologique, nous sommes à plus de 1100 cas confirmés, avec 291 décès confirmés. Et comme vous l'avez dit, il y a des décès, mais on a aussi quelques progrès parce qu'on a des guéris. Nous sommes à 122 guéris à ce jour. Et le taux de suivi des contacts, nous sommes autour de 77,1% de suivi des contacts. Et les progrès réalisés aussi au début de l'épidémie, on n'avait qu'un seul centre de traitement qui prenait en charge les cas d'Ebola. À ce jour, nous en avons autour de 9 centres de traitement qui prennent en charge les cas d'Ebola. Et nous avons aussi décentralisé le laboratoire parce que au début de l'épidémie, les échantillons devaient quitter certaines zones de santé de la province de l'Ituri jusqu'au niveau de Kinshasa pour poser le diagnostic. Et à ce jour, nous sommes déjà à plus de 7 laboratoires qui posent le diagnostic par rapport à cette maladie. Et nous sommes en train de continuer son extension des laboratoires pour aller jusqu'au tour de 15 laboratoires qui doivent être placé au niveau des zones de santé dans les 3 provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu.
Qu'est-ce qui, selon vous, a fait que cette épidémie particulière qui suit 16 autres épidémies auparavant n'ait pas pu être maîtrisée rapidement avec l'expertise qui existe déjà et qu'on en arrive aujourd'hui à 3 provinces attaquées et on ne le souhaite pas avec le cas exporté de l'étranger, peut-être une épidémie qui risque de s'exporter à l'international.
Bon, la particularité de cette épidémie, la 17e qui survient, comme je l'ai dit, dans une zone avec une densité de population très élevée et pour laquelle, avec ce mouvement de population, c'est ça qui fait que la propagation de cette épidémie a pu partir de la province de l'Ituri pour aller jusqu'au nord Kivu et au sud Kivu.
Dieudonné Mwamba, on en est arrivé aujourd'hui à l'idée, la semaine prochaine, d'expérimenter deux traitements éventuels. Comment on en est arrivé là? Dites-nous un peu plus sur ce traitement. Et est-ce que ce n'est pas seulement de l'agitation qui nous conduit à cette expérimentation, ou bien c'est vraiment une opération qui peut aboutir à des résultats escomptés?
Il y a des candidats. Donc cette recherche, c'est un essai clinique autour de des candidats qui existent, des molécules et des vaccins qui existent et qui ont été utilisés pour Ebola Zaïre, mais pour lesquels il faut voir maintenant si ces vaccins ou ces molécules peuvent aussi être adaptées à la souche Mbudibudio. Donc, on a des anticorps monoclonaux qui vont être expérimentés, et puis des antivirales à large spectre qui vont aussi être expérimentés avec essais cliniques pour voir leur efficacité sur la souche Mbudibudio et arriver à les valider si on va déterminer leur efficacité, et ça pourrait être vraiment des traitements spécifiques et efficaces contre la souche Mbudibudio.
C'est par cet avis de Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut national de santé publique en RDC, que nous bouclons notre journal de ce matin, préparé pour vous par Jude Mystère Bilan Dankoumar et mis en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.